Deux des versets les plus connus de la Bible se trouvent dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 23 et 24. Dès qu'ils apparaissent, voilà. Car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ces deux versets résument à eux seuls l'essentiel du message biblique, le cœur de l'Évangile. Tous les êtres humains sont coupés de Dieu pour toujours à cause de leurs péchés, mais Dieu, dans sa grâce, déclare juste gratuitement, au moyen de l'œuvre de salut accomplie par Jésus, celles et ceux qui mettent leur foi en lui. La question qui se pose et qui s'impose pour nous devant cet immense amour de Dieu est celle-ci. Comment répondre à tant d'amour si Dieu m'a sauvé? Comment vivre en réponse à cette grâce imméritée qui m'est offerte en Jésus? Quelle est la réponse adéquate à la grâce merveilleuse de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Les versets que nous allons méditer ce matin répondent à ces questions. En réalité, c'est la réponse de l'apôtre Paul que nous allons considérer ce matin. Elle se trouve, elle aussi, dans l'Épître aux Romains, au début du chapitre 12. Ce sont, pour celles et ceux qui participent aux rencontres de quartier, le texte qui a servi de réflexion au dernier canevas proposé dans les rencontres du mois de juin. J'aimerais vous en proposer une synthèse ce matin. Et je vous invite à lire notre passage, donc, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis dans la version dite à la colombe ce matin. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pendant 11 chapitres, l'apôtre Paul a parlé doctrine et théologie. Pour simplifier, on pourrait dire qu'il a parlé de la théorie, des vérités, des actes de Dieu et des principes qui fondent la foi chrétienne, qui fondent la vie chrétienne. Et puis quand il arrive au chapitre 12, il passe à la pratique, il passe aux exhortations. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce changement entre la théorie et la pratique s'opère de manière articulée, s'opère de manière connectée, pourrions-nous dire. Il n'y a pas d'un côté la doctrine ou la théologie ou la théorie, et de l'autre la pratique, la vie chrétienne, avec une espèce de cloison étanche entre les deux. Mais c'est l'une et l'autre de ces réalités avec des passerelles, avec des vases communicants. Et cela, c'est le « donc » du verset 1 qui nous le fait comprendre. « Je vous exhorte donc, » dit l'apôtre Paul. Et il signifie par là, il fait le lien entre tout ce qu'il vient de dire dans les premiers 11 chapitres de son épître aux Romains, cette partie doctrinale, théologique, théorique, qui a précédé, et puis tout ce qu'il s'apprête à dire dans les chapitres qui suivent, dans cette partie exhortative et pratique. En réalité, l'apôtre fonde ses exhortations sur l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus, qu'il vient d'exposer en long et en large dans les 11 premiers chapitres. Et c'est la raison pour laquelle il poursuit en disant « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu » ou « par les bontés de Dieu ». C'est parce que Dieu a agi dans son immense bonté que nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Ce que Dieu a fait dans sa compassion appelle une certaine réponse de notre part. Clairement donc, pour Paul, il n'y a pas de théologie sans pratique. Tout comme il n'y a pas non plus de pratique qui ne soit bâtie sur la théologie, sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de son œuvre. Les deux sont interconnectés, liés l'une à l'autre, et il faut toujours qu'il en soit ainsi. La pratique de la vie chrétienne ne doit pas avoir d'autre fondement que ce que Dieu a dit et que ce que Dieu a fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons retrouver ce même schéma présent ici dans l'Épître aux Romains, dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul, comme l'Épître aux Éphésiens et l'Épître aux Colossiens, par exemple. J'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que l'on peut constater un glissement très important dans ce domaine depuis quelques décennies en particulier. Si la théologie ou la doctrine, autrement dit la Bible, a été le fondement de la pratique chrétienne depuis toujours, il se trouve qu'aujourd'hui ce n'est plus le seul fondement pour beaucoup de chrétiens. En effet, l'expérience et le ressenti font aujourd'hui partie pour beaucoup de chrétiens de ce qui est normatif pour leur foi, pour leur vie chrétienne. Si je l'ai expérimenté, si je l'ai vécu, si je l'ai entendu, si je l'ai vu, c'est que c'est vrai. Peu importe que la Bible en parle ou pas. Peu importe que la Bible abonde dans ce sens ou pas. Ce qui compte au moins autant que l'Écriture, c'est l'expérience et le ressenti. Et c'est ainsi que beaucoup de subjectivité et de relativisme ont vu le jour ces dernières décennies dans beaucoup de milieux évangéliques. La norme de l'Écriture a ainsi été remplacée par celle de l'expérience et du ressenti. Il est facile d'imaginer que les changements de pratique que cela a entraînés n'ont pas toujours de solides bases théologiques, de solides bases bibliques. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de bien comprendre ce qui se passe ici dans notre passage, dans cette transition, de bien comprendre que la pensée de Dieu, c'est que la doctrine, la théologie, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, soit toujours le fondement de la pratique de notre vie chrétienne. Je referme la parenthèse. Après avoir dit pendant 11 chapitres les bontés de Dieu, et je vous invite à relire cet épître aux Romains, il faut s'accrocher, mais il en dit des choses dans ces 11 chapitres sur les bontés de Dieu. Bonté de Dieu manifestée en Jésus. Après donc avoir dit cela, que dit l'apôtre de la réponse appropriée que le chrétien devrait avoir? Et il va dire trois choses dans notre texte. Trois choses que nous allons prendre l'une après l'autre, mais qui sont liées les unes aux autres. Il exhorte premièrement à offrir son corps à Dieu. Première partie de réponse. Puis, deuxième partie de réponse, il exhorte à ne pas se conformer au monde présent. Troisième partie de réponse, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Avant de passer au premier point, j'aimerais juste souligner ici le ton qui est utilisé par l'apôtre. Que fait-il ? Il exhorte ses frères et sœurs en la foi. Il ne leur commande pas. Il ne leur dit pas « voilà ce que vous allez faire ». Il les exhorte. Et pourquoi fait-il cela ? Sans doute parce que notre réponse à l'amour de Dieu doit toujours venir de notre cœur, toujours jaillir de notre volonté, toujours jaillir de notre désir d'obéir à Dieu, de notre reconnaissance et de notre amour pour Dieu, et jamais de la contrainte. Quand je considère les bontés de Dieu, quand je considère ses compassions pour moi, tout ce que Dieu a fait pour moi, alors même que je ne méritais rien, rien d'autre, rien de moins que la consécration totale de ma vie n'est appropriée. La réponse acceptable et appropriée du pécheur sauvé par grâce, c'est toujours une vie de consécration. Offrir son corps. La première partie de notre réponse, donc, aux bontés de Dieu est de l'ordre du sacrifice. Paul parle d'offrir son corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le vocabulaire utilisé ici est celui du monde sacrificiel. Le mot sacrifice est utilisé, le mot culte est utilisé, et puis le verbe qui est utilisé, qui est traduit en français par offrir, traduit un verbe grec qui veut littéralement dire présenter. Présenter comme une offrande qui est présentée, un sacrifice qui est présenté devant l'autel. Si nous devons faire un peu de gymnastique cérébrale pour imaginer ce monde sacrificiel, c'était le monde familier des contemporains de l'apôtre Paul, où les sacrifices étaient quotidiens, pour ne pas dire omniprésents, dans la vie de l'époque. Que veut dire offrir ou présenter son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu ? À quoi Paul fait-il référence ? Que demande-t-il de faire aux frères à qui il écrit ? Si nous sommes à l'aise avec l'idée d'offrir notre cœur à Dieu, on le dit assez souvent, c'est un synonyme de se tourner vers Dieu, de se tourner vers le Christ. Pour ce qui est d'offrir notre corps, c'est un peu plus compliqué. C'est une notion qui nous est moins familière et qui peut-être nous laisse un peu mal à l'aise. Le corps est ici sans doute bien plus que l'enveloppe charnelle, bien plus que le physique opposé au spirituel. Sans doute faut-il voir ici le corps comme le vecteur par lequel se manifeste la vie, toute la vie de la personne. Ainsi, offrir son corps, c'est offrir sa vie. C'est offrir toute sa vie entière. Avant votre conversion, dit Paul aux Romains au chapitre 6, votre corps, vos membres étaient, dit-il, dominés par le péché. Votre corps obéissait, dit-il, au désir du péché. Votre corps était à la disposition du péché comme une arme ou comme un instrument pour l'injustice, pour l'impureté et pour le mal. Mais maintenant, dit-il, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, mettez votre corps tout entier à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. Je lis au chapitre 6, trois versets, les versets 12, 13 et 19. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. » Je parle de manière humaine, à cause de la faiblesse de votre chair, de même en effet que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal, ainsi mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. C'est par le corps que s'exprime, se manifeste notre vie tout entière. Et après avoir mis notre corps au service du péché, Paul nous exhorte à le mettre au service du bien, de la justice, de l'obéissance à Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la sanctification à laquelle nous sommes appelés, le service auquel nous sommes appelés dans notre vie, ne sont jamais automatiques. Rien ne se fait sans nous. Rien ne se fait à notre insu. Rien ne se fait contre notre gré dans la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ que j'ai reçu cette vie nouvelle que tout va changer par enchantement, que je vais marcher sans autre en nouveauté de vie. Je dois le vouloir. Je dois y mettre mes efforts, tous mes efforts. Je dois y persévérer, jour après jour. Je dois jour après jour mettre ma vie au service de Dieu, la lui présenter, la lui offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous avons l'habitude d'offrir des choses à Dieu. Nous donnons de l'argent au moment de l'offrande. Nous donnons de notre temps pour servir Dieu. Mais en réalité, ce que Dieu veut par-dessus tout, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. C'est notre vie que Dieu veut à son service. Paul ici n'exhorte pas à aller plus souvent à l'église. Il n'exhorte pas à donner plus au moment de l'offrande. Il n'exhorte pas à participer à plus de rencontres. Il exhorte à répondre à l'amour de Dieu de la seule manière acceptable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire en lui donnant, en lui consacrant ma vie toute entière. Dieu ne veut pas que nous lui apportions des sacrifices. Il veut que nous soyons le sacrifice. Ce don de soi, ce sacrifice auquel nous sommes appelés est qualifié de trois manières dans notre texte. De vivant, parce que c'est notre vie que Dieu veut, et pas notre mort. De saint, parce que c'est une vie mise à part à laquelle Dieu nous appelle, une vie consacrée à son service. D'agréable à Dieu, parce qu'il est possible de rendre un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Un sacrifice qu'il n'agrée pas, comme le sacrifice de Caïn, par exemple, dans l'Ancien Testament. Et ce serait alors, de notre part, un culte déraisonnable. Et je dis les choses ainsi parce que, quand Paul parle ici de sacrifice, du sacrifice de notre corps, de notre vie, il dit que c'est un culte raisonnable de notre part. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot qui est utilisé ici en grec est un mot que l'on traduit en français par le mot logique. Littéralement, c'est un culte logique de notre part, dit l'apôtre Paul. Un culte raisonnable, c'est un culte comme la réponse logique de notre part à l'amour de Dieu, à ses bontés manifestées en Jésus-Christ. En réalité, ce culte raisonnable est la seule réponse acceptable qui soit. Et cette réponse logique, acceptable, ce n'est pas des rites, ce n'est pas des cérémonies, c'est notre vie. Notre vie au service de Dieu. Le don de notre vie comme la seule réponse logique et acceptable à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par les bontés de Dieu. Malheureusement, nous avons considérablement réduit la notion de culte. Et nous l'avons réduit à une heure et demie le dimanche matin. Et éventuellement, à quelques minutes, quelques dizaines de minutes dans la semaine pour la lecture quotidienne de la Bible, pour la prière, ce qu'on appelle le culte personnel. En fait, rien n'est moins éloigné de la vérité que cela. Le culte auquel Dieu nous appelle, le culte auquel Dieu prend plaisir, ce n'est pas les quelques chants que nous chantons le dimanche matin, ils ont leur importance. Ce n'est pas la prédication que nous écoutons le dimanche matin, elle a son importance. Ce n'est pas la lecture de la Bible que nous faisons dans la semaine, c'est important de le faire. Ce n'est pas la prière que nous faisons monter vers Dieu non plus. Toutes ces choses font partie de notre consécration à Dieu. Ben, notre culte, ce n'est pas ça. Le culte auquel Dieu nous appelle et auquel il prend plaisir, c'est avant tout notre vie. Notre vie tout entière, offerte à son service. Voilà le culte que Dieu attend de nous. Voilà le culte raisonnable de notre part. Voilà la réponse acceptable de notre part aux compassions de Dieu dont nous sommes les bénéficiaires. Voilà le culte spirituel auquel Dieu prend plaisir. Et il faut donc impérativement, si c'est le cas, que nous revoyions notre compréhension de ce qu'est un culte. Toute la semaine, chaque jour, Dieu attend le culte de ma vie présenté à son service. Ne pensons pas, quand nous repartirons ce matin ou cet après-midi de ce lieu, que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour la semaine et que nous avons rendu le culte auquel Dieu s'attendait. C'est en partie vrai. Mais ça le sera d'autant plus si c'est ma vie tout entière qui lui est offerte en sacrifice. Le culte, c'est tous les jours, à la maison, à l'école, au travail, à l'église ou ailleurs. Et l'apôtre Paul a dans sa lettre aux Corinthiens une formule qui résume peut-être bien les choses quand il dit « Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà le culte auquel Dieu nous appelle. Ne pas se conformer au monde présent. Après avoir exhorté au don de soi comme seul culte raisonnable de notre part, l'apôtre invite ses lecteurs à ne pas se conformer au siècle présent ou au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est donc la deuxième partie de la réponse, aux bontés de Dieu pour nous. Que veut dire se conformer? Que veut dire ne pas se conformer? Se conformer, c'est littéralement rentrer dans le moule. C'est faire avec. C'est suivre le mouvement. C'est faire le caméléon en prenant les couleurs de l'environnement dans lequel je suis. Au contraire, ne pas se conformer, c'est faire autrement. C'est marquer sa différence, c'est vivre avec d'autres principes. Quand l'apôtre Paul parle du monde ici, il parle bien évidemment du monde en opposition à Dieu. Il parle du monde qui est sous la domination du prince de ce monde. Il parle des forces mauvaises qui sont à l'œuvre dans le monde. Il parle d'un monde qui est plongé dans le mal et dans les ténèbres. Il parle d'un monde dont les principes de vie sont opposés à la volonté de Dieu. Nous le savons, beaucoup de choses sont mauvaises dans notre monde, mais il ne faut pas néanmoins tomber dans l'excès et tout diaboliser, tout rejeter en bloc. Tout n'est pas mauvais dans notre monde. Il nous faut donc du discernement. Pour pouvoir faire la part des choses, du discernement pour trouver un équilibre entre tout diaboliser, tout rejeter et entièrement se conformer. Les deux extrêmes sont aussi mauvais l'un que l'autre. Cela nous rappelle que si le chrétien n'est pas du monde, sa patrie est céleste. Il est néanmoins appelé à vivre dans le monde, appelé à y prendre sa place, pour y vivre comme tous les autres humains, pour y briller de la lumière de Jésus-Christ. Hormis la diabolisation du monde ou le conformisme au monde, un des écueils dans lequel les chrétiens tombent parfois est celui du retrait du monde. Du retrait du monde pour s'en préserver. Du retrait du monde pour ne pas s'y conformer. Ça apparaît comme une bonne solution. Cette option peut paraître tentante, mais il faut rappeler ici que Jésus ne nous a jamais demandé d'agir ainsi. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de se retirer du monde. Au contraire, dans la prière dite sacerdotale de Jean 17, que dit Jésus ? Il prie le Père de ne pas les ôter du monde, les disciples, mais au contraire, de les garder dans le monde du malin. Il faut donc que nous veillions à ne pas développer une mentalité de ghetto, à ne pas construire des tours d'ivoire pour nous y préserver du monde. Certes, notre patrie est céleste, mais notre place ici-bas est dans le monde. Car pour l'heure, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Notre place ici-bas est dans le monde, mais bien évidemment, nous devons veiller à ne pas nous laisser corrompre par ce qui est mauvais du monde. Nous devons veiller à ne pas nous conformer au monde mauvais qui nous entoure. C'est nous qui devons influencer le monde et pas l'inverse. C'est nous qui sommes et qui portons la lumière de Jésus-Christ. Une des difficultés pour chacun de nous est que depuis que nous sommes nés, nous avons appris à imiter. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que l'apprentissage de la vie se fait. Nous imitons et nous sommes sous influence, que nous en soyons conscients ou pas, sous influence à cause de notre péché, sous influence à cause du monde dans le péché, du monde mauvais dans lequel nous vivons. Tout cela fait qu'il est très facile pour nous de nous conformer au monde présent sans même nous en rendre compte. Il y a tant de choses influentes qui ont de la place dans notre vie. Alors il ne s'agit pas ici de tout diaboliser, de jeter l'eau du bain et le bébé avec. Mais il est important que nous prenions conscience des influences qui s'exercent sur nous. Et je pense ici en particulier, mais on pourrait allonger la liste, à tous les médias, télé et internet en tête, qui jour après jour nous influencent et façonnent notre mentalité, notre façon de comprendre les choses. Alors il y a de bonnes choses, mais il y en a aussi de mauvaises. Si nous nous conformons facilement depuis notre naissance physique à la naissance spirituelle, les choses commencent à changer. Elles devraient commencer à changer. Parce qu'il y a maintenant d'autres principes à l'œuvre en moi pour gouverner ma vie. Les principes mauvais du monde ne sont plus les seules possibilités qui s'offrent à moi. J'ai maintenant les principes de Dieu dans sa parole, sa vérité, la vérité de sa parole. Et c'est fort de cette alternative que Dieu nous appelle à marcher en nouveauté de vie, que Dieu nous appelle à marcher par l'Esprit et non plus en suivant les désirs de la chair, que Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au monde présent. Ne pas se conformer au monde présent, c'est donc ne pas vivre en suivant les principes mauvais ou la sagesse du monde. Des principes qui très souvent s'opposent à ceux de Dieu et en sont même diamétralement opposés. Ainsi, le monde dit « N'aimez que ceux qui vous aiment et méprisez les autres. » Et Dieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras tes ennemis et tu prieras pour ceux qui te persécutent. » Ainsi, le monde dit « La grandeur est dans l'accomplissement et la fin justifie toujours les moyens pour y parvenir. » Et Dieu dit « La grandeur est dans le service et dans l'humilité. » Ainsi, le monde dit « Le mensonge est acceptable quand il nous permet de sortir d'un mauvais pas. » Et Dieu dit « Tu ne mentiras pas. » Mais le monde dit, il n'y a pas de normes. Chacun possède sa vérité. Mais Dieu dit, je suis la norme. Je suis la vérité. Le monde dit, le bonheur, c'est de posséder. Et Dieu dit, le bonheur, c'est de me connaître. Le monde dit, toutes les relations sexuelles sont acceptables tant qu'il y a de l'amour. Et Dieu dit, les relations sexuelles sont bonnes dans le cadre de la fidélité du mariage entre un homme et une femme. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples. Ces exemples qui nous montrent, qui suffisent à nous montrer, à nous rappeler combien les principes qui gouvernent notre monde sont opposés à ceux de Dieu. Et qui nous font comprendre pourquoi Dieu nous appelle à ne pas nous conformer au monde présent. Un appel au non-conformisme qui ne se trouve pas que dans l'Épître aux Romains, mais que l'on va trouver dans toute l'Écriture, comme un fil rouge. Dieu qui appelle son peuple à ne pas se conformer, Israël, aux nations de Canaan, etc. C'est un appel, c'est un leitmotiv qui parcourt toute l'Écriture. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est la troisième et dernière partie de notre réponse aux compassions de Dieu. C'est notre transformation par le renouvellement de notre intelligence ou de notre pensée. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle transformation s'agit-il ici? Le verbe qui est utilisé, traduit en français par « soyez transformés », est le même verbe que l'on va retrouver dans l'épisode de la transfiguration de Jésus. C'est le verbe qui se traduit littéralement par « métamorphoser ». Ainsi, la transformation dont il est question ici, c'est bien plus qu'une transformation de façade. C'est une transformation en profondeur qui change les choses en profondeur. Comment s'opère cette transformation ? L'apôtre précise seulement par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de notre pensée, le renouvellement de notre compréhension des choses, le renouvellement des principes qui gouvernent notre vie. Si la transformation en question ici s'opère par le renouvellement de l'intelligence, comment notre intelligence ou notre pensée est-elle renouvelée ? Paul ne donne pas la réponse dans ce passage. Par contre, avec le reste de l'Écriture, nous pouvons dire que le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée s'opère de deux manières, qui sont comme les deux faces d'une même pièce, travaillant la main dans la main. D'un côté, l'action du Saint-Esprit, de l'autre, la parole de Dieu. Et c'est leur action combinée qui renouvelle notre intelligence et qui va conduire à notre transformation en profondeur. Entrons un peu plus dans l'articulation des choses. Parce que nous sommes pécheurs, et nous le restons, parce que nous vivons dans un monde qui est profondément marqué par le péché, notre intelligence, notre pensée est affectée. Elle est corrompue. Elle est déformée d'une certaine manière. Et ainsi, nos choix de vie, si nous n'avons que cela pour nous diriger, seront des choix influencés par le péché. Mais quand nous venons à Jésus, quand nous laissons l'Esprit Saint faire sa demeure en nous, quand nous acceptons et gardons sa parole dans notre cœur, alors nous choisissons de remplacer l'erreur et le mensonge par la vérité de Dieu, par sa parole, par l'illumination de l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que nous commençons à voir les choses autrement. Et nous commençons à les voir comme Dieu les voit. Nous commençons à comprendre véritablement qui est Dieu. Nous commençons à comprendre véritablement qui nous sommes. Nous commençons à comprendre véritablement le monde dans lequel nous vivons. Et en comprenant ces choses, nous adoptons le point de vue de Dieu. Et en adoptant le point de vue de Dieu, nous commençons à agir comme Dieu le veut. Notre regard change, nos actions changent, notre vie est transformée. Le renouvellement de notre intelligence par l'action combinée de la parole et de l'Esprit Saint nous transforme et nous amène à marcher en nouveauté de vie. Nous amène à ne pas nous conformer au monde présent. Non seulement nous marchons en nouveauté de vie, mais nous sommes aussi alors en mesure, dit Paul, de discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Une volonté de Dieu que nous pouvons discerner puisque nous avons accueilli et gardé la parole dans notre cœur. Une volonté de Dieu que nous pouvons discerner puisque l'Esprit de Dieu agit en nous. Et ce discernement de la volonté de Dieu va contribuer lui aussi à tout ce processus de renouvellement et de transformation dont nous venons de parler. Quelle est notre part dans ce processus ? Je le redis, rien ne se fait sans nous. Notre part, après avoir accepté le Christ dans notre vie, c'est de nous nourrir de sa parole, c'est de la garder et d'y obéir. C'est de rester en communion avec Dieu par le moyen, par le biais de son Esprit en nous. Et ainsi, nous pourrons répondre aux bontés de Dieu Ainsi, nous pourrons nous offrir à Dieu. Ainsi, nous pourrons ne pas nous conformer au monde présent. Et ainsi, nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour les vivre à sa gloire. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants de silence.